écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mercredi 26 mars, bonsoir à tous. C'est reparti pour un tour du monde de l'actualité. Bienvenue dans la session soirée de l'info sur RFI. Allez, les temps forts des 3 heures à venir. D'abord le décryptage, ça c'est dans 10 minutes, Véronique Rigolet. Il se passe beaucoup de choses concernant l'Ukraine en ce moment. Avance-t-on à petits pas vers la paix ?
Ce n'est pas encore le grand cessez-le-feu hein, espéré par Donald Trump, mais les belligérants ukrainiens et russes ont accepté un arrêt des hostilités en mer Noire. Un nouveau petit pas dans le bon sens, mais qui reste très fragile alors que le Kremlin conditionne l'entrée en vigueur de cette trêve à la levée de certaines sanctions occidentales, véritable ligne rouge pour le président Zelensky, à quoi joue donc Moscou, le médiateur américain dans ce conflit. Est-il trop clairement favorable au Kremlin ? On fait le point avec l'ancien ambassadeur Claude Blanche-Maison et le géopoliticien Cyril Brett.
Eh bien, tout à l'heure, juste après, ce sera le débat du jour. Qui, ce soir, se penchera sur la situation en Turquie ? Peut-on parler de coup d'État ? Voilà la question que nous poserons. Une semaine après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui fait descendre les Turcs dans la rue. Manifestation massive qui, chaque soir, se répète. Qu'est-ce que cela dit de la Turquie d'aujourd'hui ? Sur quoi la mobilisation actuelle peut-elle déboucher ? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir et les dossiers qui sera consacré au rendez-vous qui est prévu ce soir à l'Elysée entre le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. 18h30 TU, Afrique Soir, première édition de ce mercredi. 19h10, temps universel, votre session reportage comme chaque soir pendant 50 minutes. La guerre commerciale ce soir au menu d'Accent d'Europe qui sera en Écosse pour évoquer un symbole, le whisky face à la tempête Trump. Et puis le grand reportage qui nous emmènera en Bolivie ce soir. Brûlons la forêt pour étendre élevage et culture. Voilà pour le sommaire, mais pour l'heure, 17h de temps universel, c'est le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et on débute cette édition au Proche-Orient où de nouvelles manifestations s'organisent.
En Israël, après un rassemblement à Tel Aviv, les manifestants doivent se rendre à Jérusalem devant le Parlement ce soir. Les rassemblements anti-gouvernementaux s'enchaînent pour dénoncer les tentatives de limogeage au plus haut niveau de l'État et la reprise de l'offensive à Gaza. Côté palestinien aussi, la population de l'enclave manifeste avec un mot d'ordre, le Hamas dehors. La correspondance de Sami Bourkhalifa.
Faites entendre notre voix, je n'ai pas peur des représailles, dit d'emblée Leïla, jeune mère de famille. Elle a convaincu son mari d'aller manifester.
On a décidé que les rassemblements devaient être restreints par peur des bombardements israéliens.
Les Gazaouis manifestent contre la guerre meurtrière menée par l'État hébreu et contre le gouvernement du Hamas.
Nous exigeons un cessez-le-feu et nous exigeons que le gouvernement du Hamas ne reste plus au pouvoir dans la bande de Gaza. Nous ne voulons plus de ces dirigeants du Hamas installés confortablement à l'étranger en Turquie ou au Qatar et qui décident à distance de ce qui est bon ou mauvais pour nous. Ces gens n'ont aucune idée des souffrances que nous endurons.
Mais cette révolte des Gazaouis concerne uniquement le Hamas basé à l'étranger, pas les combattants palestiniens dans la bande de Gaza, précise Leïla.
Les combattants palestiniens incarnent la lutte nationale contre l'occupation israélienne. Ces gens partagent notre souffrance à Gaza. Ils ont connu la faim comme nous, ils ont perdu leurs proches comme nous, ils ont tout notre respect.
Les Gazaouis veulent un gouvernement composé de responsables qui vivent en Palestine et qui veillent aux intérêts des Palestiniens. Leur priorité, la reconstruction de Gaza et la réhabilitation des systèmes de santé et d'éducation. Sami Bourkhalifa, Jérusalem, RFI.
En Turquie, dans moins d'une demi-heure maintenant, les Stambouliotes sont appelés à applaudir, à klaxonner ou à agiter des drapeaux à l'appel du CHP, le mouvement d'Ekrem İmamoğlu. Le maire d'Istanbul a été arrêté la semaine dernière et la contestation contre le président Recep Tayyip Erdogan se poursuit en inventant d'autres moyens de protester après des arrestations massives. 1400 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement. Alors, est-ce que la mobilisation peut se maintenir ? Des éléments de réponse avec Vincent Souriau et Jean Marcoux, professeur spécialiste de la Turquie à l'Université de Grenoble.
Jusqu'ici, le mouvement repose sur l'indignation politique. Les manifestants dénoncent la dérive autoritaire du président turc qui a, selon eux, ordonné l'arrestation de son futur adversaire à la présidentielle. Mais pour durer, souligne Jean Marcoux, cette mobilisation doit aussi agréger ceux qui s'estiment lésés par la conjoncture économique.
Il y a bien sûr les jeunes, mais il y a aussi les retraités. Le problème est un peu de savoir si ce mouvement va réussir à catalyser tous ces mécontentements pour justement être en mesure mesure de durer et de mettre le gouvernement face à un blocage.
L'autre facteur clé, souligne Jean Marcoux, c'est l'implication des Kurdes qui pèsent plus de 10% des suffrages au niveau national et qui jusqu'ici sont plutôt restés en retrait de ce mouvement.
Est-ce qu'ils vont prendre le risque de soutenir le mouvement ? Est-ce qu'au contraire, ils vont rester en dehors d'une certaine manière, permettant à Erdogan de diviser l'opposition, parce que c'est quand même le troisième parti du pays, donc c'est essentiel pour l'opposition. On voit bien qu'ils hésitent depuis une semaine.
Ils marchent sur une ligne de crête, conclut Jean Marcoux, car si les Kurdes finissent par se jeter dans la bataille, le gouvernement turc va tout de suite accuser l'opposition d'être complice du terrorisme.
En Estonie, le Parlement a voté cet après-midi un amendement à la Constitution. Les citoyens non européens ne pourront plus voter aux élections locales. La forte minorité russe d'Estonie est clairement visée. Le pays balte, qui a 300 km de frontière commune avec la Russie, entend se protéger contre les potentielles ingérences de Moscou. The Atlantic riposte après les propos du président américain qui avait tenté d'éteindre la polémique. Un simple pépin sans gravité, avait commenté Donald Trump après la divulgation d'informations militaires par erreur à l'un de ses journalistes. Le magazine publie aujourd'hui ces fameux échanges qui évoquent très précisément le plan d'attaque militaire américain contre les Houthis du Yémen. Les Houthis alliés de Téhéran en Iran, les gardiens de la révolution ont eux dévoilé en images une nouvelle base souterraine remplie de missiles, de quoi relancer encore un peu plus les tensions avec Israël et les États-Unis. La correspondance de Siavosh Ghazi.
C'est sans doute une des plus grandes bases souterraines de missiles dévoilées ces dernières années par l'Iran. Sur les images diffusées par la télévision d'État, on peut voir des tunnels où deux camions peuvent rouler en même temps avec des centaines de missiles prêts à être lancés. Selon les commentaires, ces missiles de précision sont capables d'atteindre Israël ou des bases américaines dans la région. Ces derniers mois, d'autres bases souterraines ont également été dévoilées pour montrer la capacité militaire de l'Iran. Cela intervient alors que le président Trump a demandé à Téhéran de limiter son programme nucléaire, mais aussi balistique. L'Iran n'a toujours pas répondu à la lettre envoyée par le président américain, mais le chef de la diplomatie iranienne a affirmé à plusieurs reprises que l'Iran refusait toute négociation sous la menace. Depuis son arrivée au pouvoir, le président américain a multiplié les sanctions contre l'Iran, notamment pour empêcher toute exportation pétrolière. Washington a également demandé à l'Iran de cesser toute aide aux Houthis au Yémen. La tension ne cesse de monter entre les deux pays, alors que Téhéran progresse dans son programme nucléaire. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
À l'unanimité, la Cour suprême a décidé d'ouvrir un procès contre Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'État. C'est une décision historique au Brésil. L'ancien président d'extrême droite risque de plus de 40 ans de prison. Jair Bolsonaro est accusé d'avoir tenté d'abolir la démocratie au Brésil et envisagé d'assassiner le président Lula. Lui se dit victime de la plus grande persécution politico-judiciaire de l'histoire du pays. Du sport et du football à présent, le journal L'Équipe a publié son numéro spécial sur les salaires des joueurs du championnat français. Et cette année encore, sans surprise, le classement est dominé par le PSG, mais loin des records des années précédentes. Solène Ravenel.
Il est le meilleur buteur de Ligue 1 et le joueur le mieux payé. On parle bien sûr d'Ousmane Dembélé, l'attaquant du PSG, deuxième derrière Mbappé la saison dernière et logiquement passé en tête du classement après le départ du capitaine des Bleus au Real Madrid. Mais avec un salaire de 1,5 million d'euros par mois, Dembélé est loin derrière son ancien coéquipier qui pointait à 6 millions. Et sur le podium, Marquinhos est en deuxième position, suivi d'Achraf Hakimi avec un peu plus d'un million par mois. L'international marocain est même devenu depuis sa prolongation en février, le latéral droit le mieux payé au monde. Et même sans ses stars internationales comme Messi ou Neymar, le club parisien surdomine le classement en trustant les 12 premières places. Le Marseillais Adrien Rabiot et le Lyonnais Alexandre Lacazette, qui sont payés 500 000 euros par mois, sont les premiers joueurs non parisiens de ce classement. Enfin, hormis Achraf Hakimi, on retrouve d'autres internationaux africains dans ce top 30. L'Algérien Ismaël Benacer et le Centrafricain Geoffrey Kondogbia, tous les deux payés 450 000 à Marseille. Et l'Ivoirien Seko Fofana, le Rennais, le mieux payé avec 400 000 euros par mois.
Un mot de cyclisme pour refermer ce journal. Tadej Pogacar a décidé de disputer son premier Paris-Roubaix. La course aura lieu le 13 avril prochain. C'est la première fois depuis 91 qu'un vainqueur sortant du Tour de France prendra le départ de l'arène des classiques. L'Américain Greg LeMond l'avait fait il y a longtemps. Tout de suite, le décryptage de Véronique Rigolet.